C'est parti. Caprice de la mémoire, je me souvenais vaguement d'un texte de Françoise Sagan sur le théâtre. Alors j'ai cherché toute la soirée et je suis tombé sur ce chapitre de son livre avec mon meilleur souvenir, bouleversant, parce qu'on y trouve sans doute le plus bel hommage d'un écrivain à une actrice. Voilà ce qu'elle écrit, Sagan. Je rencontrais Danielle Darrieux dans la robe mauve de Valentine, que sans le savoir, j'avais écrite pour elle. Le premier jour des répétitions, elle entra en scène et elle fut Valentine. Sans que ni Jacques Robert, admirable metteur en scène au demeurant, ni moi-même, n'ayant rien à lui souffler ni à lui suggérer. Il y avait des fauteuils ouverts dans l'obscurité où s'asseyaient à tâtons deux ou trois ombres éparpillées dans la salle, avec ses feuillets pâles que l'on triturait dans le noir. Et il y avait, déambulant sur la scène, souveraine et irréelle, ma Valentine. Darrieux qui poursuivait sa course vers le dénouement. Nos époux eux-mêmes, celui de Danielle Darrieux et le mien, avaient été happés par cette force aspirante et je crois qu'ils connaissaient la pièce aussi bien que nous-mêmes. De temps en temps, en dehors du théâtre, Danielle Darrieux parlait comme Valentine, pensait comme Valentine et nous en restions tous émerveillés. Le jour de la première, je savais, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement, parce qu'elle était là, elle, que les gens l'aimeraient et effectivement, ils l'aimèrent.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. De quels caprices sont faits les souvenirs de mon invité d'aujourd'hui? Ces souvenirs à partir desquels il tisse depuis bientôt 50 ans une œuvre tout à fait singulière, quelque part entre le récit et le rêve. Souvenirs dormants, c'est le titre de son dernier livre qui sort aujourd'hui, en même temps qu'une pièce de théâtre intitulée Nos débuts dans la vie. Bonjour Patrick Modiano.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Quand vous pensez à Danielle Darrieux, quelles images vous viennent immédiatement à l'esprit, vous?
Oh, des tas d'images, parce qu'elle a, elle avait, comme elle avait tous les talents, alors c'est des images où elle chante, des images de films qui sont totalement différents les uns des autres, les premières comédies où elle était exceptionnelle, puis alors après des rôles d'espionne avec des Anglais, enfin, qui se passent à Istanbul, ou alors Madame II de Fulz. Je la vois dans un rôle de pharmacienne très trouble avec Gabin, dans un autre film avec Gabin où elle l'a empoisonné. Enfin, c'était comme un feu d'artifice. En fait, elle arrivait à tout faire.
À quoi on reconnaît une bonne comédienne pour vous? Vous dont la mère, Patrick Modiano, était comédienne justement et dont l'ombre plane sur votre pièce, Nos débuts dans la vie.
Bah, c'est-à-dire, oui, Danielle Darrieux était un exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois capable d'être une actrice de théâtre, qui a fait beaucoup de théâtre, mais qui en même temps... est purement cinématographique, mais en même temps qui est parfaite au théâtre. Et en plus, elle chantait, donc il y avait tout le... Elle savait tout faire, en fait.
Et votre mère, c'était une bonne comédienne?
Ben, c'est-à-dire, c'était différent, parce qu'elle elle jouait des petits rôles comme ça. C'était un peu le... ce qu'on appelle les fantassins du... du spectacle, en fait.
Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous l'accompagniez au théâtre, votre mère, quand vous la regardiez de la salle ou l'entendiez jouer par le haut-parleur de la loge?
Ben, c'est-à-dire que ce qui me frappait surtout, c'était les couloirs, les coulisses, les loges. Elle, je la voyais pas tellement jouer. Enfin, oui, c'était plutôt l'atmosphère des théâtres vus de l'envers. Oui, ça m'a beaucoup frappé dès l'enfance, en fait.
Dans Nos débuts dans la vie, vous racontez l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir écrivain et dont la mère est comédienne, une comédienne assez frustrée, vouée à jouer du théâtre de boulevard, une comédienne dont les rêves ne se sont pas réalisés, somme toute. De quoi elle rêvait, votre mère, en arrivant à Paris?
Il y a des grands modèles, évidemment, à l'époque. Oui, Danielle Darrieux, c'était sans doute un modèle, enfin, quelqu'un qui puisse à la fois jouer au théâtre, au cinéma, tout ça, c'est des rêves. C'est...
Votre mère, Patrick Modiano, elle était belge. Elle est arrivée à Paris en 1942 sous l'occupation.
Oui, c'est ça. Oui.
1942, il se trouve que c'est la date de sortie du film Caprice de Léon Johannon avec Danielle Darrieux. Et j'aimerais vous faire entendre sa voix à Danielle Darrieux qui nous hante tous les deux.
Chacun quand il passe au jour, son doigt et son tristesse. Tout s'efface soudain par la volonté du destin. Ouvre-nous un autre chemin, on le suit par sa veine. Caprice, parfois peut-être le prénom heureux. Caprice,
mais cette voix de Daniel Darrieux.
Oui, c'est-à-dire que elle avait un certain sens d'humour. Je pense qu'elle aurait éclaté de rire quand elle. Mais en même temps, il y a un côté assez émouvant. C'est-à-dire, c'est une voix tellement, c'est la jeunesse, la grâce, tout ça, mais dans une époque qui était troublée, parce que sûrement la cire du disque, c'était des périodes un peu de pénurie. Enfin, n'était pas. Donc, ça rajoute. Il y a une espèce de côté troublant parce que on entend cette voix gracieuse ça sur un fond un peu comme si elle était voilée, comme si
c'est ce que j'allais vous dire, c'est le mystère d'une époque,
c'est le mystère d'une époque, une époque où assez sombre, alors cette espèce de contraste entre cette voix cette espèce de d'insouciance, de grâce de la jeunesse, mais avec cette espèce de voile de l'époque.
Il se trouve que dans Souvenir dormant, c'est à une autre époque, Patrick Modiano, que vous vous référez, celle du Paris des années 60, qui garde encore des traces de la guerre. Voici ce que vous écrivez dans Souvenir dormant. Près d'un demi-siècle a passé et on n'habite plus à Paris dans des chambres d'hôtel comme on le faisait après la guerre et jusqu'aux années 60. Il me semble aussi qu'au cours de ces années 1963-1964, le vieux monde retenait une dernière fois son souffle avant de s'écrouler, comme toutes ces maisons et tous ces immeubles des faubourgs et de la périphérie que l'on s'apprêtait à détruire. Il nous aura été donné, à nous qui étions très jeunes, de vivre encore quelques mois dans les anciens décors.
Oui, les anciens décors, oui, tous les petits détails qui n'avaient pas changé depuis l'avant-guerre, les cabines téléphoniques où il fallait tout le moindre, même les rideaux dans les chambres d'hôtel étaient encore quelquefois. Il y avait encore des traces de la guerre parce que c'est des rideaux noirs de la défense. Enfin,
ce sont des décors de théâtre en fait.
Oui, c'est des décors de théâtre. En fait. Moi, je situe ça en 63-64. Oui, tout a changé d'un. Enfin, pas brutalement, mais il y a eu un changement entre, disons, 63-66, il y a eu une espèce
de rupture.
De rupture.
Ce que vous décrivez, en fait, c'est le Paris de votre jeunesse. Une époque charnière, mais une époque révolue, une époque de souvenirs. Le Paris du présent, vous le voyez comment, vous ?
Justement, je pense quelquefois à certains endroits de Paris que vont certainement décrire des gens de 20, 25 ans. Par exemple, toute la partie qui est du côté de la bibliothèque
nationale.
Sur lesquelles il y a tout un Paris, évidemment, qui me fascinerait aussi parce qu'il, alors évidemment, on est toujours prisonnier un peu de ses souvenirs d'adolescence ou qui fait que finalement le Paris dont je parle devient un Paris imaginaire.
Vous considérez quand même être un homme du présent ?
C'est-à-dire, ce qui est étrange, c'est qu'on ne peut pas ne pas être un homme du présent. Alors évidemment, c'est des chemins détournés parce qu'évidemment, quand on est romancier, on est comme une éponge. Alors tout le climat du présent, l'air du temps vous imprègne. Alors évidemment, ça ressurgit peut-être dans des romans qui paraissent un peu l'évocation d'une sorte de passé, mais en fait, il est nourri des angoisses du présent, mais sous une autre forme, en fait, parce qu'on ne peut pas ne pas vivre au présent avec toutes les angoisses du présent. Donc, finalement, même si on écrit des livres comme ça qui paraissent un peu pas nostalgiques, c'est pas une question de... mais on est imbibé par le présent, parce que ces livres n'auraient pas pu être écrits à une autre date. Ils ne pouvaient être écrits qu'à la date où... Donc, ils sont imprégnés par toutes les ondes qu'on reçoit du présent.
Celle qui est au présent. Dans cette émission, vous la connaissez évidemment, c'est la culture. Et son actualité est précisément omniprésente. Que se passe-t-il donc, Patrick Modiano, aujourd'hui, jeudi 26 octobre ? Pianiste et chanteur légendaire de la Nouvelle-Orléans, Fats Domino, c'était un mardi, il avait 89 ans. C'est en mêlant boogie-woogie, rhythm and blues et mélodie cajun qu'il avait, dès le début des années 50, contribué à inventer le rock'n'roll. Son premier succès, The Fat Man, sorti en 49, est souvent considéré comme la première chanson de l'histoire du genre. Il avait signé par la suite des incontournables comme Blueberry Hill et Let the Four Winds Blow. Ciao, Mr. Domino.
Le festival Henri Bambel s'articule aujourd'hui autour des arts de la marionnette. Et de l'objet.
Henri Bambel for Marseille, a big step for puppetry.
Les marionnettes à la fête dans toutes les Bouches-du-Rhône jusqu'au 18 novembre. L'événement Henri Bambel propose de faire rire, rêver et s'évader grâce à l'art des marionnettes. Près de 12 spectacles sont proposés. Le ciné-concert Elle est où la lune au Mucem de Marseille devrait ainsi charmer les plus petits, tandis que le collectif libanais Karaba enchantera les moins petits avec leur géologie d'une fable au Forum de Berre. Ça, c'est d'enfer.
Ça donne pas envie de rester là, tout ça ?
Le Ciné, ça creuse, unique festival de cinéma du département de la Creuse, créé en 2010 par Claude Miller. Ciné des villes, Ciné des champs s'installe dès aujourd'hui dans la charmante bourgade de Bourganeuf. Au programme, une famille syrienne de Philippe Vanleu, voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier, mais surtout une soirée vin et cinéma avec le documentaire Les vies du vin et le clapiche, ce qui nous lie, Gin Gin.
Je suis le capitaine Nemo et vous êtes à bord de mon sous-marin, le Nautilus.
Le Nautilus jette l'ancre à Marseille jusqu'au 28. La troupe de la Comédie Française se délocalise au Théâtre de la Criée et revisite le classique de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, auréolé du Molière de la création visuelle 2016. Le spectacle tout en poésie et féerie a été imaginé par la plasticienne Valérie Lessort et de la société du sociétaire du français Christian Heck. Alors on ferme les écoutilles et on ouvre bien grand les yeux. Patrick Modiano, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour un diptyque, un duo, une doublette, la sortie d'un roman, Souvenir dormant, et d'une pièce de théâtre, Nos débuts dans la vie. Vous avez écrit la pièce, l'histoire d'un jeune homme qui trouve l'amour et devient écrivain, avant d'écrire le roman, où l'on suit un héros qui erre dans Paris et de femme en femme. Pourquoi deux livres ?
La pièce, j'y pensais depuis longtemps, mais en fait, pour me donner une impulsion, parce qu'évidemment, j'avais l'impression d'un comme un moteur un peu... Et donc, évidemment, l'écriture d'une pièce de théâtre vous donne une impulsion plus nette.
Qu'est-ce que ça vous a permis de débloquer ?
C'est-à-dire qu'évidemment, le théâtre, bon, c'est un dialogue, c'est quelque chose de plus direct que le roman, parce que le roman, c'est... Le théâtre vous donne une impulsion, parce que ce sont des répliques, c'est des choses beaucoup plus carrées, plus simples, et donc... Le temps de l'écrire est plus rapide, alors ça vous donne une sorte d'impulsion et après, vous vous sentez plus à l'aise pour retourner à la prose, enfin à la...
Vous en avez souvent eu, Patrick Modiano, des blocages ?
Oui, c'est-à-dire que l'écriture de ce qu'on appelle un roman ou d'un livre en prose provoque des blocages. Le début est très difficile parce qu'on a l'impression qu'on s'est peut-être égaré, alors... qu'il faudrait prendre un autre chemin. Alors, le problème, c'est qu'il faut continuer sans être sûr. C'est comme si on conduisait une voiture sous la neige sans avoir aucune visibilité. Alors, on a tendance à renoncer en disant qu'on a fait une fausse route. Alors, il faut attendre au moins une cinquantaine de pages pour être comme une boule de neige pour être... on part dans une direction, alors il faut supprimer, enfin...
Mais si écrire, c'est toujours, même après des années de pratique, un acte aussi difficile, aussi douloureux, qu'est-ce qui vous pousse à écrire ?
C'est peut-être moins pénible, enfin j'allais dire douloureux ou pénible, que quand j'étais très jeune, parce qu'en fait, le fait d'écrire des sous forme de roman, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de pages, tout ça. Et alors, quand on est très jeune, évidemment, c'est quelque chose qui est un peu antagoniste avec l'extrême jeunesse, qui est plutôt... on est moins patient que plus tard, évidemment. Donc, ce qui me frappait quand je voyais mes deux premiers livres que je n'avais pas lus depuis longtemps ou que je ne relis pas parce que ça fait un peu peur, mais quand je voyais... En tournant les pages dans un... Je me disais, ce qui est bizarre dans ces livres, c'est qu'il n'y a aucune aération. C'est-à-dire que c'est d'un bout à l'autre des phrases qui suivent sans aucun chapitre, sans aucun... Et je me disais que ça correspondait à ce côté un peu crispé de... Quand on est très jeune, quand on doit écrire un texte comme ça, on ne...
Mais aujourd'hui...
On se raidit un peu.
Mais aujourd'hui, vivre sans écrire, vous le pourriez ?
Non, ce serait pas possible parce que... C'est une activité aussi, psychologiquement, on a l'impression quand on écrit qu'on rétablit un équilibre, que en même temps on regrette de ne pas vivre simplement, enfin que la vie soit... Mais on a besoin de cette espèce d'accompagnement comme ça pour rétablir quelque chose qui est déséquilibré au départ, et l'écriture vous permet de... C'est comme un tableau qui est de travers, vous le... Donc ça vous rétablit un équilibre... qui est étrange parce que on regrette de ne pas, que la vie ne vous suffise pas. elle continue dans ce que vous écrivez et ça rétablit évidemment une sorte d'équilibre.
Je trouve que dans la pièce de théâtre, oui. Nos débuts dans la vie, vous parlez d'écriture à travers le personnage de Jean,
oui.
Ce jeune écrivain dont la mère est comédienne et qui se promène avec le manuscrit qu'il est en train d'écrire menotté au poignet,
oui.
Comme s'il avait peur de le perdre ou qu'on lui vole.
Oui, c'est-à-dire, c'est un peu le théâtre, il y a un côté un peu exagéré, c'est-à-dire il porte une menotte reliée à un cartable parce qu'il a peur que... Évidemment, très jeune, quand on commence un livre ou on essaye de commencer un livre, on est dans un état d'incertitude parce que ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas demander conseil à des gens qui peuvent vous aider. Parce qu'en fait, même les gens les plus bienveillants ne peuvent pas vous aider sur quelque chose qui n'existe pas tout à fait. Alors il faut faire quelque chose dans la solitude tout en n'étant pas sûr que ça puisse aboutir. Avec
et je sais, oui. Patrick Modiano, qu'avant Place de l'Étoile, votre premier roman qui a été publié, il y en a eu un autre,
oui.
Dont vous avez égaré le manuscrit. De quoi parlait ce premier roman, pour le coup? Vous vous souvenez?
Oui, c'est-à-dire que j'avais été très marqué par un livre de Le Diable au corps de Radiguet, et c'était une sorte de Diable au corps, mais sûrement une espèce de pâle copie du Diable au corps, et je devais entrer dans un pensionnat en Haute-Savoie et comme il y avait encore une discipline assez stricte, c'est pour ça que peut-être que ça revient l'histoire de la menotte, c'est que je pouvais pas l'emmener dans ce collège où j'étais interne parce que j'avais peur d'être envoyé si on tombait dessus, et donc je l'ai laissé dans une maison, puis les gens l'ont égaré. Enfin,
Et si chaque livre que vous avez écrit par la suite, c'était une variation sur ce livre-là? C'est possible?
Bizarrement, peut-être que c'était une variation sur ce livre-là, mais le premier livre que j'ai écrit, même maintenant, je comprends pas très bien pourquoi je l'ai fait, parce que ça correspond pas aux autres livres que j'ai écrits. Mais par contre, cette tentative qui a été perdue aurait pu être reliée, pas au premier livre, mais aux livres qui ont suivi. Oui, c'est vrai, parce que c'était toujours des histoires, un mélange du Diable au corps et de Manon Lescaut, c'est-à-dire un jeune homme avec des jeunes gens qui sont victimes de la cruauté des adultes. Enfin,
puis une histoire d'amour, forcément.
Oui, une histoire d'amour, mais tout ça menacé. Alors ça se relie peut-être inconsciemment aux autres. Oui, à ce que j'ai essayé de faire après. Enfin.
J'ai envie qu'on parle d'amour, tous les deux. Vous, moi, et Juliette Gréco, tiens, qui chantait cette si belle chanson de Lucienne Boyer en 1963. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères.
Ah,
vous
oui,
êtes
ça,
sur France Inter,
ça.
Avec Patrick Modiano. Vous écoutez Boomerang.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ce mot que j'adore, votre voix au son caressant qui le murmure en frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Quand il vous parle d'amour, c'est simple, on pourrait l'écouter pendant des heures. Ces mots d'amour dont il vous arrose, tel le jardinier aimant ses fleurs, du haut de sa stature de basketteur chenu. Il est très grand quand même, très très grand, avec sa veste bleue.
Qui ressemble à une blouse.
Ah oui, j'avais pas...
Patrick Modiano, basketteur, donc invité de Boomerang ce matin, pour la double sortie d'une pièce de théâtre, Nos débuts dans la vie, et d'un roman qui s'intitule Souvenirs dormants, où vous vous remémorez des rencontres parfois fugaces avec des femmes dont les noms seront familiers à ceux qui vous lisent depuis longtemps, Geneviève Dallam ou Madeleine Perrot. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est une rencontre pour vous ?
Oui, c'est-à-dire que, comme ça fait allusion à une période de la vie de jeunesse, comme, enfin d'extrême jeunesse, à cet âge-là, les rencontres se font souvent dans la rue, finalement, parce que, évidemment, peut-être plus maintenant, parce que les mœurs ont changé, enfin, mais... Oui, on rencontrait des gens dans la rue, bizarrement.
Et j'ai l'impression que chez vous, une rencontre, c'est toujours une absence.
Oui, ça devient une absence, oui. Parce que, en fait, ce sont des rencontres étranges qui sont, qui n'auraient pas pu se faire à un autre, enfin, une minute après. Donc, il y a toujours un élément de, on a l'impression que les gens qu'on rencontre, on va les perdre, enfin.
Est-ce que pour autant, vous vous sentez seul, Patrick Modiano?
C'est-à-dire que quand je repense à cette époque dont il est question là, oui, je me sentais un peu seul. C'est pour ça que je crois que je le dis d'ailleurs, je ne pouvais concevoir que des rencontres dans la rue, en fait, parce que j'étais toujours dans la rue. Enfin, il n'y avait pas de structure familiale ou de. Donc, pour combattre cette solitude, oui, je pensais que le hasard ferait que.
Paris, pour moi, est semé de fantômes, aussi nombreux que les stations de métro et leurs points lumineux. C'est ce que vous écrivez. Est-ce qu'une vie avec des fantômes, c'est une vie solitaire pour autant?
Non, parce que évidemment, on est toujours habité par ces fantômes. Et puis, quand on se rappelle des rencontres comme ça dans la rue, il y a des endroits très précis de Paris où on se rappelle des choses qui vous ont frappé, des rencontres qui vous ont frappé. Alors, c'est pour ça que je faisais souvent le parallèle avec ce qui existait dans le métro avant, ces espèces de tableaux de points lumineux pour quand on cherchait une...
Un itinéraire.
Un itinéraire, on appuyait sur la station et on voyait. Et donc, c'est vrai, c'est toutes ces rencontres qu'on a faites au hasard, comme ça, c'est comme si Paris était avec des points lumineux. On se rappelle très bien les endroits de Paris où des événements de votre vie ont été un peu rudes. Donc, ça crée tout un...
Dans mon souvenir, parmi ces points lumineux, il y en avait certains qui étaient rouges. Et je me pose la question, y a-t-il des fantômes qui font peur, Patrick Modiano?
Oui, il y a des rencontres qui font peur parce que il y a de mauvaises rencontres quelquefois parce que qui auraient pu vous entraîner dans des trucs un peu bizarres.
Vous pensez à quoi?
Non, mais c'est-à-dire il y avait chez moi un truc bizarre, c'est que j'étais moitié spectateur, moitié et comme j'étais curieux, je voulais. Enfin, quelquefois, ça pouvait vous entraîner dans des situations un peu étranges et donc j'étais un peu inconscient. Je croyais que le fait d'être spectateur ou d'être un peu en retrait et d'observer les choses pouvait vous procurer une immunité. C'est comme un peu les photographes de guerre, quelquefois, ils ne se rendent pas, enfin, ils n'ont plus le sens du danger. Alors, c'est vrai qu'il y avait quelquefois des rencontres un peu hasardeuses. Enfin,
tout à l'heure, vous disiez, on peut être prisonnier de ses souvenirs. Oui. Si le passé est une prison, comment est-ce qu'on s'en libère?
C'est-à-dire que c'est un peu comme dans certains rêves récurrents où vous rêvez vous faites toujours le même rêve et donc ça a un rapport avec ce que vous avez vécu, certaines situations où vous, en fait, c'est en écrivant finalement qu'on se, parce que ça prend une, vous arrivez à en faire de la littérature, alors ça vous délivre quelquefois de, mais en fait, je me dis que tout ce que on a vécu aussi, c'était peut-être une arrière-pensée que j'avais de les écrire plus tard, donc il y avait une sorte d'équilibre, en fait.
J'ai envie de lire un autre extrait de vos si beaux souvenirs dormants, où vous nous donnez des éléments de réponse. L'année dernière, au fond d'une grande enveloppe, parmi les passeports de carton bleu marine périmés et des bulletins d'un home d'enfants et d'un collège de Haute-Savoie où j'avais été pensionnaire, je suis tombé sur des feuillets dactylographiés. Dans un premier temps, j'ai hésité à relire ces quelques pages de papier pelure retenues par un trombone rouillé. J'ai voulu m'en débarrasser tout de suite. Ça me paraissait impossible, comme ces déchets radioactifs qu'il est inutile d'enterrer à 100 mètres sous terre. Le seul moyen de désamorcer définitivement ce mince dossier, c'est d'en recopier des extraits, de les mêler aux pages d'un roman comme je l'ai fait il y a 30 ans. Ainsi, on ne saura pas s'ils appartiennent à la réalité ou au domaine du rêve. le rêve, Patrick Modiano, comment vous faites pour démêler dans votre vie le rêve de la réalité qui, dans vos livres, se confondent en permanence?
Oui, les souvenirs dormants, c'est-à-dire que les souvenirs ont une vie étrange. Ils disparaissent et puis ils réapparaissent un peu comme des plantes à la surface d'un étang, comme ça, au-dessus des eaux dormantes. Parce que quand je pensais à souvenirs dormants, je pensais aussi à une expression, on parle des eaux dormantes, quand on parle des étangs, tout ça, où il y a toute une flore et une végétation qui sont dans ces eaux dormantes et qui ressurgissent comme ça. Et donc, c'est vrai que les souvenirs déjà sont déformés par rapport à la réalité telle qu'on l'a vécue. Et puis, quelquefois, il y a des espèces d'excroissances végétales. Tout ça. Et donc, on ne sait plus si c'est à la limite du rêve ou de l'imaginaire, parce qu'ils se transforment, ils ont une vie presque végétale.
Alors, est-ce qu'on sait au moins qui on est? Est-ce que vous savez qui vous êtes, vous?
Non, parce que, évidemment, j'allais dire un métier, c'est pas un métier, mais c'est vrai que le romancier, quelquefois, ne sait plus qui il est, peut-être d'une manière un peu moins forte que le comédien ou la comédienne qui, elle, ne finit par ne plus savoir qui elle est. Le romancier, c'est différent parce qu'il faut qu'il ordonne les choses, qu'il y a tout un travail de structurer un livre et tout ça. Donc,
ce que vous nous dites, c'est que vous n'êtes, en somme, que vos romans.
Oui, mais en même temps, évidemment, comme il y a tout un travail des ratures et tout ça, on a l'impression que c'est un mélange très bizarre, comme un rêveur qui devrait organiser son rêve d'une manière très technique et tout ça. Alors c'est une dualité très étrange qui est un peu bizarre, un peu comme un rêve éveillé où vous contrôlez un rêve et donc à la fin, il y a un problème d'identité, il n'y a plus de frontières entre l'imaginaire, le souvenir, le réel, en fait.
Vous rêvez de quoi, vous, aujourd'hui?
C'est toujours des rêves récurrents, en fait, où je retrouve des endroits qui me sont familiers, des rues qui me sont familières, ou des gens que je retrouve comme ça, ou des trains... On arrive toujours en retard à la gare, il y a des choses qui reviennent comme ça.
Il y a des nouveaux fantômes qui apparaissent?
Pas vraiment de nouveaux fantômes, c'est plutôt toujours un peu les mêmes rêves, mais de lieux qui me sont ou qui m'étaient familiers. Mais alors, il y a un léger décalage. Par exemple, si vous rêvez d'une rue enfant que vous suiviez tous les jours pour aller en classe ou ça, la rue vous apparaît légèrement, presque un peu inquiétante, parce que vu à travers le rêve, c'est pas tout à fait la rue que vous aviez connue. Enfin, il y a un truc très bizarre. Puis alors, il y a un problème, c'est que dans le rêve, ça m'arrive souvent de savoir que je rêve. Alors quand il y a des situations embarrassantes, je me dis, je ne risque rien, parce que si j'arrive au bord d'un précipice, parce qu'il y a souvent des rêves où on rêve qu'on tombe dans un précipice, je risque pas ma vie puisque je vais me réveiller. Alors tout ça est très trouble en même temps.
Et est-ce que vous savez dans le même temps que c'est matière à écriture pendant que vous rêvez?
Oui, parce que après, quand on se réveille et quand on n'a pas oublié le rêve, parce que souvent ce qui est terrible, c'est qu'on retrouve plus, on perd le fil du rêve. Ça peut vous aider à écrire parce que vous avez vu tout ce que vous connaissiez dans la vie courante sous une autre forme un peu déformée, et ça vous aide à écrire, en fait, parce que vous essayez de décrire ce que vous avez vu dans le rêve. Une sorte de réalité légèrement décalée. Enfin,
il faut donc dormir beaucoup pour être Patrick Modiano.
Oui, il faut être dans une sorte de sommeil, de rêve éveillé, oui.
Merci infiniment, Patrick, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Souvenirs dormants et Nos débuts dans la vie sortent aujourd'hui chez Gallimard. C'est du Modiano, c'est donc forcément très beau. Beau comme le podcast de Boomerang auquel on encourage vivement tous les auditeurs de France Inter de s'abonner. Faites comme Patrick, faites comme Sonia, alléluia. Tout de suite les médias d'ailleurs, Sonia de Villers, juste après ça.
Free. I used to know the way. I forgot it all. I used to be you.